Radio Barque pour cette 14e, la troisième partie avec notre invité Didier Codorniou. Nous venons de vous entendre sur le problème du rattachement des ports de plaisance à l'agglo, mais vous avez plein d'autres fonctions, Didier Codorniou, et notamment vous êtes président du parti des radicaux de gauche dans l'Aude. Alors forcément, vous êtes sur la primaire et vous êtes impliqué.
Oui, tout à fait. Et puis bon, c'était une primaire qui m'ont intéressé pour plusieurs raisons. D'une part, par rapport aux propositions des 7 candidats, mais bien sûr aussi, donc c'était un exercice pour Sylvia Pinel. C'était sa première expérience, si je puis dire, malgré le fait qu'elle ait été ministre. Donc moi, je trouvais que la performance était tout à fait donc intéressante. D'ailleurs, vous l'avez vu, hein, donc on était à 0,5%. Aujourd'hui, nous sommes crédités de 3 voire 4%. Donc c'est une primaire qui donc apportait vraiment du souffle et une parole radicale.
Et alors la suite législative, puisque après une présidentielle, il y a des législatives. Comment les aborderez-vous, vous, le PRG ?
Oui, mais je crois que ce qu'il va falloir d'abord attendre, c'est le premier tour, c'est de voir donc le comportement des radicaux, et puis surtout savoir comment ça va se passer autour du candidat qui sera désigné pour les primaires. Et puis donc je crois que donc ça se construit dans le temps. Donc nous ne sommes pas encore très très pressés que de nous positionner pour les législatives.
Oui, Michel. Il avait émis d'ailleurs un certain nombre de théories il y a quelques temps.
Oui, on peut le comprendre. La présidence de Didier Codorniou est très compréhensible, puisque bon, tout le monde sait, une autorité publique, que le Parti radical de gauche soutient en tout cas une préférence très très marquée pour Manuel Valls. Donc l'hypothèse où Manuel Valls ne passerait pas en fait le second tour de la primaire, bon, qu'est-ce qui va se passer derrière? On n'en sait trop rien, quoi. Mais en tout cas, bon, c'est vrai que la situation politique à gauche en ce moment est particulièrement compliquée, et en l'attente effectivement de ce résultat final de l'élection de celui qui sera retenu à cette primaire.
Donc voilà, il faudra attendre.
Mais ça promet.
Oui, ça promet. Bon, alors Didier Codorniou, vous êtes également un des vice-présidents de la région, la grande région Occitanie, et vous êtes chargé de tout ce qui touche à la mer, alors les ports et les aéroports, notamment. Mais vous travaillez beaucoup sur également le Parlement de la mer, une institution qui existait déjà. Alors expliquez-nous un peu quels sont les gros fers que vous avez sur le feu.
Les
grands chantiers.
Il y en a plusieurs, mais pour être aussi, pour aller à l'essentiel, il y a le plan littoral 21 qui sera présenté début mars par le Premier ministre et la présidente donc dans la région de l'Occitanie, avec des enveloppes confortable qui devrait donc donner du souffle donc sur les investissements, les infrastructures portuaires, mais pas que, également touristiques. Il faudrait vous parler du port de Port-la-Nouvelle, parce qu'en même temps, nous allons lancer l'enquête publique au mois de mai-juin 2017, pour que cette enquête soit terminée à la rentrée, donc septembre-octobre, j'espère qu'il n'y aura pas de recours. Et puis derrière, pour démarrer les travaux, donc pour 2000, on est sur des enveloppes de pratiquement 210 millions d'euros sur une première phase estimée, sur les digues, sur l'espace éolien, puisque nous allons créer un quai donc dédié à l'éolien, 42 millions d'euros, pour qu'on puisse être opérationnel en 2019-2020, avec également un financement qui va être donc des clés de répartition entre le Grand Narbonne. Vous savez que le Grand Narbonne participe à hauteur de 5%, le département, la région bien sûr à 70%, l'État et l'Europe. Et puis après, il y aura trois phases donc que je pourrais détailler, mais que j'éviterai pour ne pas allonger mes propos. Et puis la gouvernance, je crois que c'est important dans le cadre d'une autosaisine de la commission du Césaire avant-hier à Toulouse. Comment
le Césaire, un mot d'explication.
Le comité économique social. Qui réfléchit, qui travaille sur les propositions de gouvernance. Bon, l'idée, c'est d'avoir une seule et même gouvernance pour qu'on ait de la cohérence, mais également donc une certaine autonomie et complémentarité des ports, des trois ports pour l'instant.
Parce que justement, aujourd'hui, il n'y a pas photo, si je puis dire, le grand port de la région Occitanie, c'est 7. Bon, maintenant, il y a d'autres ports. Il y a Port-la-Nouvelle et puis Port-Vendres. Donc, l'idée, c'est d'arriver à les spécialiser, à leur offrir des créneaux. Comment voyez-vous?
Oui, voilà. En fait, on est sur une organisation donc des ports avec une gouvernance adaptée. Donc, je vous parlais du Césaire, mais pas que aussi. Il y a un cabinet spécialisé qui a été audité par et qui a été donc une commande publique par la région pour qu'on puisse avoir un certain nombre de propositions qu'on sera amené dans les prochains mois à prendre comme décision, parce qu'aujourd'hui on a un EPR, l'établissement public régional, donc nous avons deux ports. Le port de Port-la-Nouvelle, donc dans le cadre d'une délégation de services publics avec un renouvellement de la DSP donc à la CCI, mais je crois que donc voilà, il faut que on puisse être beaucoup plus en phase avec une organisation pour que nos ports soient des ports qui jouent dans la grande cour de ce qui se passe aujourd'hui dans l'espace donc maritime, en phase avec Barcelone, avec Marseille, avec Rotterdam. Donc on doit pouvoir jouer ce rôle-là.
Alors pour la nouvelle, il y a eu un projet d'extension simplement pour le transport maritime classique, si je puis dire, mais il y a évidemment ce gros projet éolien qui apporterait une spécialisation, une spécificité future de ce port de la nouvelle.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que le port de Port-la-Nouvelle, donc il y a les hydrocarbures, il y a les céréales, il y a le vrac et il y a les éoliens. Juste un rappel, chaque ferme pilote correspond à un investissement privé de 200 millions, 400 millions d'euros, voilà, être investi sur les deux fermes, donc une en face du Gruissant à 15 km large, une autre entre Barcarès et Le Catte, qui vont se servir du port de Port-la-Nouvelle. Donc en termes relais, c'est là où la réflexion, c'est uniquement de pas donc amener les turbines donc et fabriquer donc les turbines et les pales ailleurs. Donc l'idée, c'est d'avoir un circuit court qui puisse s'organiser, avoir des usines qui travaillent sur les turbines, sur les pales. C'est pour ça que l'Interland doit être aussi élargi. Donc moi, je suis sur une Interland entre 400 et 500 km au niveau de l'Occitanie pour que on se positionne et sur les flotteurs et sur la fabrication des turbines et sur la fabrication des pales, avec aussi un rapprochement d'Airbus Industrie.
Parce que vous évoquez, Didier Codorniou, une expérience, une phase pilote, mais ça n'est qu'une phase pilote qui doit déboucher en principe sur du durable.
Oui, alors il faut savoir que la ministre Ségolène Royal, donc je serai la semaine prochaine à Marseille dans le cadre du Conseil maritime, donc du Conseil maritime, pour justement anticiper la phase industrielle. Donc et ça, c'est aussi un élément nouveau, puisqu'on n'attend pas l'expérimentation, on lance la partie industrielle, donc il va demander un an et demi. En fait, on sera pratiquement en phase entre l'expérimentation qui aura donc un an et demi, voire deux années donc d'expérience, de pouvoir lancer la partie industrielle, parce qu'on est sur 4 machines donc par zone. Demain, notre idée, c'est de développer entre 40 et 60 machines par zone.
Qui seraient les fermes définitives, ou en tout cas durables.
Oui, avec un besoin énergétique aussi, donc une production entre 20 et 25% de la production demandée sur notre région Occitanie.
Oui, Michel.
Oui, non, c'est pas du tout pour atténuer le propos de Didier Codorniou, mais rappeler simplement qu'il y a deux aujourd'hui expérimentations en compétition, quoi. Hein, donc il n'est pas sûr du tout, en fait, que le projet de la nouvelle soit celui retenu in fine. Cela dit, rien n'empêche, bien au contraire, d'anticiper ce genre de situation et de commencer à faire du démarchage industriel pour pouvoir fabriquer. En sachant aussi quand même que les principaux producteurs de ce genre d'engins sont dans l'Europe du Nord, en fait, principalement. En fait,
hein. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui. Et pour les délocaliser dans le Sud, ça sera peut-être une autre
perte de manche.
Vous y travaillez.
Non, mais justement, ce qui est intéressant, c'est de créer un projet économique qui concerne l'ensemble de toutes les activités que nous avons dans notre région. Et d'ailleurs, déjà, avec le projet Quadrant sur les flotteurs, donc on sera sur les flotteurs béton et donc l'expérimentation va se faire avec donc du savoir-faire local. Et notre idée avec la présidente, c'est Carole Dalia, c'est de pouvoir ne pas qu'assembler, de pouvoir produire, de pouvoir innover, inventer, donc et que derrière on est sur du 3000 voire 4000 emplois non délocalisables, et c'est ce qui nous intéresse aussi.
Quadrant, en fait, est une entreprise régionale.
Oui, oui, qui est à Béziers. Oui, et il y a quelques jours, à peine sur nos ondes, un responsable nous expliquait premiers travaux qu'ils sont en train de faire, les mesures qu'ils sont en train de faire sur le futur site, mesurant les houles, les profondeurs, les vents, etc. Donc, on est bien là dans de l'entreprise locale, et c'est pas du rêve.
C'est une entreprise bitéroise qui a.
On est bien dans la réalité. Très belle affaire, oui. On va revenir sur Gruissin et le tourisme, mais vous êtes également donc responsable des aéroports dans la région Grande Occitanie. Alors, l'aéroport de Toulouse, où en est-il ? On parlait d'une participation chinoise, d'une mainmise. Alors, qu'en est-il exactement ?
Sur les aéroports, nous avons donc lancé une étude des retombées économiques. Nous avions ça sur l'ancienne région Languedoc-Roussillon. On l'a donc, on a élargi notre périmètre sur l'Occitanie avec Midi-Py. Donc là, aujourd'hui, nous avons 10 aéroports sur l'Occitanie, et nous avons également lancé un schéma aéroportuaire pour que nous puissions voir clair sur les investissements porté par la collectivité, en sachant que quand nous investissons 1 euro, donc il y a un effet de levier qui est estimé à 25 euros, entre 25 et 30 euros. Sur l'aéroport de Toulouse, oui, effectivement, il y a les Chinois donc qui sont à 49,1% donc du capital, qui vont investir fortement, puisqu'ils ont investi, ils vont investir 250 millions sur un projet stratégique aéroportuaire avec des retombées intéressantes. Les premiers charters vont venir donc de la province de Shandong, et donc d'ailleurs c'est le groupe Shandong Aspin qui pilote donc l'aéroport, avec des destinations sur Pékin dès 2018, et également au niveau des US, puisqu'en 2019 il devrait y avoir des charters donc qui vont venir sur l'aéroport de Toulouse. Bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est qu'une fois que ces passagers vont venir sur Toulouse, de pouvoir irriguer l'ensemble de notre territoire, et c'est ce que nous faisons dans le cadre du CRT, donc de la politique touristique qui se met aussi en place, puisque je vous rappelle qu'il y avait deux CRT, donc Midi-Py et Languedoc-Roussillon, pour que on puisse donc éclater donc l'ensemble des sites UNESCO, mais pas que, donc les sites touristiques qui ont été identifiés, et bien sûr ce qui nous intéresse en dehors de la viticulture, mais c'est aussi des investissements donc par ces groupes, donc pour que on puisse être très attractif sur notre région, l'Occitanie. Donc voilà, c'est un volet, moi, qui me tient à...
Ces passagers chinois, ce sera des touristes, essentiellement.
Oui, principalement, que les touristes, bien entendu.
Dans quelle zone on va essayer de les répartir ?
Mais vous savez, quand ils atterrissent sur Toulouse, ben, on est sur 13 départements. Donc nous, à nous de bien voir comment... Mais il n'y a pas... Vous parlez des aéroports, c'est intéressant, parce que nous avons pratiquement 10,5 du trafic national avec les 10 aéroports. Donc il y a la complémentarité, il y a aussi le désenclavement des territoires. Et nous, ce qu'on défend avec la présidente Carole Delga, c'est le désenclavement et les retombées économiques. C'est pour ça que nous sommes sur aussi les aéroports de Perpignan et de Carcassonne, qui doivent jouer un rôle stratégique dans ce développement économique.
Et l'aéroport de Béziers.
Et bien sûr, l'aéroport de Béziers. Alors, l'aéroport de Béziers, il y a aussi donc,
privé, donc
entre le directeur de Montpellier qui aimerait donc n'avoir qu'un seul aéroport. Et nous, nous sommes intéressés par Béziers, parce que Béziers, il faut savoir que le grand trafic qui s'organise, donc, c'est Agde. Et Agde, c'est la plus grande station d'Europe. Donc, on ne peut pas imaginer que Béziers disparaisse. Donc, on est sur les enjeux qui sont très importants dans l'année 2017. Donc, j'aurai d'autres moment, donc, si vous le souhaitez, pour m'entretenir avec vous.
Pour y revenir, oui, alors Béziers serait sauvé grâce à Agde.
Non, ça a toujours été comme ça. L'aéroport a été créé.
Historiquement,
qu'au tout début, en fait, il était question d'envisager un aéroport commun entre Narbonne et Béziers. Et c'est par le refus de Narbonne que Béziers a créé seul son aéroport.
Voilà, un point d'histoire. Et merci, Michel. On va terminer sur une dernière question où on revient sur Gruissin et le tourisme. Alors, Michel l'avait longuement évoqué, la fameuse loi NOTRe sur la territorialité fait que pas seulement les ports de plaisance, mais le tourisme en général doit être une compétence communautaire. Et là-dessus, les choses sont pas très claires, puisqu'il y a un certain nombre de dérogations qui font que les stations de Gruissan, Narbonne et Le Cat ont un traitement à part,
leur office classé.
Oui, oui. Alors ça rend les choses pas très simples non plus à comprendre et à gérer. Alors, Didier Codorniou.
En fait, c'est assez simple pour les concitoyens qui nous écoutent. Il faut savoir qu'il y a des OT classés par le biais de la loi Montagne qui peuvent rester classés. Et puis il y a cet office de tourisme communautaire qui est en place et d'ailleurs qui tient compte aussi des OT classés, puisqu'il y a un membre des OT classés qui siège. Mais ce que je vous disais, faisons évoluer donc pas forcément la loi, mais faisons et anticipons sur l'OT classé pour que demain après-demain il puisse y avoir qu'une seule organisation sur notre territoire. Moi je tends donc vers
le sud. Dans la mesure où les responsables des OT classés accepteraient de s'intégrer à l'agglo.
Complètement. Je vous rappelle que le maire de Narbonne, Didier Mouly, ne souhaitait pas que donc l'office soit transféré à l'agglomération. Il y a eu après la loi Montagne donc qui a permis donc ce qu'on est en train de dire. Mais cette loi Montagne aujourd'hui elle manque pour moi cruellement de relief et donc
ce qui est un comble pour une loi.
Voilà, mais c'est justement bien choisi. Et nous en fait on est au niveau des OT classés, on s'est un peu engouffré, mais je pense que l'intérêt donc de notre organisation, c'est que pour qu'on travaille bien mieux, c'est que on intègre par la suite. Et je pense que donc si ça se fait pas cette année, ça se fera pour le prochain mandat, un peu comme l'intercommunalité, pour avoir une seule organisation spatiale en termes de cohérence. Mais la cohérence aujourd'hui, elle existe, croyez-moi.
On ne peut pas imaginer un changement de forme de gestion pendant le mandat actuel, quoi. Donc ça veut dire que voilà, le maire de Narbonne restera campé sur sa position, je garde la compétence, et le maire de Le Cat, il tout.
Ça veut dire qu'il faudra attendre. Eh bien, merci Didier Codorniou d'avoir fait ce tour d'horizon et nous prendrons rendez-vous prochainement pour tout ce que vous avez évoqué, puisque je le disais tout à l'heure, les choses évoluent et se transforment et surtout ça bouge. C'est ça qui est agréable à entendre. Nous parlerons probablement encore de tourisme la prochaine fois, puisque c'est Michel Py qui viendra à ce même micro. Nous reparlerons tourisme, mais nous parlerons également aussi
transfert au port de plaisance.
Politique, primaire,
bien sûr. Et ce qu'il pense de la position de son ami Didier Mouly, en faveur de Marine Fabre, par exemple.
On garde la question au chaud, ça sera pour la semaine prochaine.
Et d'une éventuelle candidature du PRG dans cette circonscription.
Voilà, lorsque l'analyse sera faite, les conclusions
tirées. En sachant que par ailleurs, M. Perrier, lui, se positionne avec Macron pour ces mêmes législatives.
Il nous l'avait déjà expliqué.
Ça va faire du monde.
Merci à vous.
Merci à vous
et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.